Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, la démocratie peut-elle se passer de médiation ? Résumons-nous, la défiance à l'égard des médias n'a jamais été aussi forte, comme en témoigne le dernier baromètre annuel du journal La Croix. Du côté des experts, ça ne va pas mieux. C'était le thème d'un numéro récent de notre Club des idées, à l'occasion de la publication d'un rapport de France Stratégie consacré à l'expertise en démocratie. Les corps intermédiaires sont eux aussi affaiblis, qu'il s'agisse des partis politiques traditionnels ou des syndicats, contraints de suivre de l'extérieur le mouvement des Gilets jaunes. Et que dire de la démocratie représentative ? Bref, c'est l'ensemble des institutions censées assurer une médiation entre les demandes citoyennes et le pouvoir qui est remise en cause. Une contestation qui s'accompagne d'une demande forte de démocratie directe. La revendication d'un référendum d'initiative citoyenne n'en est qu'une des manifestations. Mais la démocratie, pour être effective, ne suppose-t-elle pas justement l'existence d'intermédiaires ? Vouloir s'en affranchir ne relève-t-il pas de la pure illusion ? La démocratie peut-elle se passer de médiation ? C'est le thème de la discussion du soir en compagnie de deux des membres de notre club. Géraldine Mühlmann, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous êtes professeure de sciences politiques et de philosophie à l'université Paris 2. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de publication du Média TV. Et comme chaque vendredi ou presque, nous avons un invité, en l'occurrence, il s'agit de Vincent Trémollet de Villers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Alors j'évoquais dans le même sac la défiance à l'égard des médias, la remise en cause de la place des experts, la faiblesse des corps intermédiaires, la crise de la démocratie représentative. Est-ce que vous considérez, Vincent Trémollet de Villers, que ce sont des phénomènes qui sont liés ?
Oui, ils sont liés, ils ont la même source, il me semble, qui n'est pas d'abord la crise de la médiation, mais la crise de la représentation. Je pense que la crise de la médiation que nous vivons à travers le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé il y a 2 mois vient du fait qu'il y a une crise profonde de la représentation en France, une crise profonde de la représentation politique dont Emmanuel Macron a réussi à bénéficier très intelligemment en 2017, syndicale aussi, puisque quand on voit le taux d'adhésion au syndicat, il est très faible. Quand on voit la défiance qu'inspirent les médias traditionnels dans l'enquête annuelle du Cevipof, c'est très spectaculaire, puisque les gens font plus confiance en leurs banquiers que dans les journalistes. C'est dire la confiance qu'on leur inspire.
Mais justement, la défiance dans les médias, c'est moins une crise de la représentation qu'une crise de la médiation.
Je pense que les gens considèrent que les médias ne montre pas la diversité de points de vue, peut-être la diversité sociologique de la population française, et que donc ils ne s'y sentent pas représentés. Et donc ils se sentent éloignés de ceux qui devraient les représenter. D'où le fait qu'ils décident, certains en tout cas voudraient derrière, supprimer ces représentations, ce qui moi personnellement me paraît une folie, puisque la médiation et la représentation est indispensable à la démocratie, mais même au-delà de la démocratie, elle est indispensable à toute vie en société. Toute organisation humaine ne peut pas vivre sans hiérarchie, sans structure et sans médiation.
Alors on ira justement dans un instant sur la réflexion autour d'une absence peut-être de représentation et de médiation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister et qui peut exister dans le cadre démocratique ? Mais pour rester encore quelques instants sur le constat, Géraldine Mühlmann et Aude Lancelin, cette somme de défiance relève-t-elle en tout cas d'un même symptôme, Géraldine Mühlmann ?
Il y a quelque chose de commun qui est le durcissement de l'opposition peuple-élite. Parce qu'il y a plusieurs manières de penser le peuple. Moi, je pense qu'au bout du compte, la plus féconde est de le penser comme une pluralité. Mais il est indéniable que la question de savoir s'il y a de la domination sur ce peuple, donc s'il y a quand même des élites, quelque chose de ce genre, est une question qui traverse la démocratie depuis toujours, même si c'est censé être une pluralité. Les élites font partie du peuple, j'aurais quand même le rappeler. Malgré tout, c'est une question légitime de se demander s'il y a de la domination. Bon, le problème, c'est que cette question ne nourrit plus une combativité doublée d'un débat vif qui avance et qui exerce une critique féconde sur les élites, etc. C'est qu'on est passé à un moment de ras-le-bol considérable, et je pense par exemple que les journalistes, longtemps dans leur histoire, ont quand même incarné un peu le regard du peuple sur les élites. Ça n'a jamais toujours très bien marché, bien évidemment, mais c'était quand même cette position qu'ils avaient construite un peu contre l'ancienne aristocratie conservatrice qui était contre la liberté de la presse, contre une bourgeoisie du 19e qui était très effrayée d'ailleurs par la presse. Je crois que c'est les barricades, la révolution, enfin la presse était quand même vue du côté du peuple.
Et aujourd'hui, ça serait l'inverse, ça serait le regard des élites sur le peuple.
Oui, je pense que même quand ils travaillent bien, les journalistes sont perçus par les gens comme subrepticement travaillant pour les élites. Et ça, c'est terrible pour ce métier.
Oui, il y a une crise de la représentation extrêmement grave. Et la crise des Gilets jaunes, voilà, en résulte. Il y a un soupçon qui pèse désormais autant sur les politiques que sur les syndicats, que sur les journalistes. Tous les médiateurs sont aujourd'hui soupçonnés de travailler contre le peuple. Ce soupçon-là, il faut quand même le dire, il a aussi été, je dirais pas encouragé, mais enfin exploité par notre président de la République, Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, puisqu'il a choisi de se lancer contre les partis en décrétant la mort des partis, que les partis faisaient partie de l'ancien monde. Il fait partie.
Il
n'y
a pas que lui qui l'a dit pendant la campagne présidentielle.
Il n'y a pas que lui.
Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avec son mouvement La France Insoumise, à l'égard des partis traditionnels, des corps constitués, des médias, était aussi dans cette démarche. Et d'autres d'ailleurs, bien sûr.
Bien entendu, mais ça a été salué par beaucoup, notamment d'éditocrates, comme un coup de génie, comme l'avènement d'un nouveau monde. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on voit aussi l'addition que le pays est en train de payer. Parce que ce discrédit de la politique, ce discrédit des syndicats, puisque Emmanuel Macron appartient à toutes ces élites néolibérales qui ont ridiculisé, qui ont discrédité les syndicats pendant des années, pendant des dizaines d'années, hein. Lui n'est que la résultante, Emmanuel Macron n'est que la résultante d'une politique menée depuis longtemps. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, il serait très heureux d'avoir encore une corde de rappel syndicale, mais ils ne l'ont plus.
Ce discrédit, Vincent Trémollet de Villers, est-ce qu'il est en partie, à vos yeux, justifié ? Donc discrédit, hein, je rappelle, on parle vraiment de manière très, très large ce soir, les partis politiques, les corps intermédiaires, les médias. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être une forme de, comment dire, de trahison peut-être, à l'égard de ceux qui se sentent justement aujourd'hui floués par ces représentants ?
En tout cas, il y a eu un sentiment qui s'est développé. Alors après, juger les causes, c'est très compliqué, mais qui est le suivant, qui est que les gens ont considéré que ceux qui devaient les représenter ont profité de ce statut pour devenir des formes de notables qui oubliaient ce qui les avait fait, ce qu'ils étaient. Et je pense que les syndicats, par exemple, ont été considérés par beaucoup de travailleurs comme des... comme ne les représentant plus. Là, c'est pas, je pense, le fait de la politique néolibérale. C'est peut-être un tort qu'ils ont eu eux-mêmes. Parfois, les journalistes ont peut-être été aussi trop circulaires. Enfin, à mon avis, si chacun fait son examen de conscience, on peut trouver à chaque fois des fautes.
Mais il me semble trop circulaire. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que qu'est-ce qui nourrit, à mon avis, le sentiment de défiance vis-à-vis des journalistes, c'est que ils se distinguent du monde dont ils parlent comme s'ils étaient un autre monde. Donc il y a une forme de distinction sociale du journaliste qui a accès à des choses, les autres n'y ont pas forcément accès, et donc il est accusé de ne pas peindre la réalité de certaines personnes. Le mouvement que nous avons vu émerger à partir du mois de novembre avait pour slogan non dit ou dit « Vous ne nous voyez pas, vous ne parlez pas de nous ». Bon, moyennant quoi, ensuite, on a vu plus que des gilets jaunes pendant 2 mois. C'était exclusivement ça. Mais donc, la critique se faisait là-dessus. Pour revenir sur la question du peuple et des élites qui me paraît centrale, dont parlait Gérard Lumla tout à l'heure, moi, il me semble que c'est un recul politique très important et peut-être même une forme de dissolution du politique à laquelle nous assistons, puisque la disparition du clivage droite-gauche que beaucoup ont célébré comme une avancée, comme un nouveau monde, a fait disparaître la possibilité de mixité sociale que permettait la politique. Il y a 2 siècles de tradition française où on pouvait être de gauche en étant un bourgeois ou en étant un ouvrier, on pouvait être de droite en étant un bourgeois ou en étant un paysan. Et c'était comme ça. Et donc les gens avaient des possibilités de lien entre eux, et maintenant nous arrivons à des clivages qui sont sociologiques, qui sont géographiques et qui s'apparentent de plus en plus à ce qui pourrait ressembler à une lutte de classe. Il me semble que sur le plan démocratique, c'est un recul important.
Géraldine Mulman.
Je crois que les Gilets jaunes ont montré, comme l'a particulièrement bien dit Florence Aubenas, par exemple, j'ai trouvé qu'elle avait bien parlé de cet aspect, à quel point une partie de ce pays était devenue invisible sur le plan médiatique. Je crois que ça, c'est une autocritique que les journalistes doivent faire. Et je trouve, par exemple, frappant que vous parliez de ces nouveaux plateaux de télé, on les voit. Franchement, ça a changé la télé, quoi. Ça a changé les chaînes d'infos. Et je vais même vous faire un aveu. Ça leur fait pas de mal aux chaînes d'infos d'avoir un autre langage, d'autres visages, d'autres manières de parler. Après, je vous dis pas que c'est le débat génial tous les soirs, mais je trouve qu'il y a eu un moment cet automne où tout d'un coup, on parlait autrement, que ce soit du niveau de langage, des contenus de ce langage. Il y avait autre chose qui se passait. Et ça, c'était très grave, parce que ça voulait dire, ça faisait longtemps qu'on n'entendait plus une partie de cette population.
Et donc
ça,
il faudrait qu'on pose la logique, grave. Nous, par exemple, oui. Dans le cadre de cette émission, jusqu'à celle qui a été suivie par les chaînes d'info.
Non, parce que je ne crois pas au reflet, parce que je ne crois pas non plus que pour être représenté, non, pourrait, il faut être le même.
On pourrait y songer, hein, cela dit.
On pourrait songer. Non, mais je veux dire par là, il ne faut pas faire des quotas mathématiques. Je ne pense pas que la représentation ce soit le reflet strict. Mais je veux dire que ça ne circule pas bien les visions du monde, et en particulier des visions assez désespérées, parce qu'on a entendu ça aussi, ne circule pas bien. Je ne pense pas que France Culture soit le lieu où on en est le moins entendu parler. Je pense qu'il y a d'autres médias qui sont plus problématiques. Et en tout cas, là, il y a eu un problème. Et je crois que c'est cet ensemble de choses. La question de la visibilité était tout à fait centrale. Donc oui, il y a de l'autocritique. Maintenant, on ne peut pas faire sans médiation, sans représentation. Je pense que c'est le sujet de votre émission, là.
Et ben alors justement, enchaînons là-dessus. On ne peut pas faire sans médiation, sans représentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, Aude Lancelin ?
Ben là, on revient, et grâce aux Gilets jaunes, je dirais, aux questions politiques fondamentales. Puisque cette question-là, de la légitimité de la représentation ou pas, c'est celle que pose par exemple Rousseau dans Du contrat social, texte inspirateur de la Révolution française. Et sa position, c'est la suivante. Dès qu'il y a représentation, il n'y a plus véritablement démocratie au sens propre du terme. C'est la raison pour laquelle, pour lui, il ne peut exister de grande démocratie. La démocratie véritable, la démocratie directe ne peut se mettre en place que dans des petits États, type la Suisse, type il avait aussi rédigé une constitution de la Corse, etc. À travers les questions politiques qui sont aujourd'hui soulevées par le peuple, on revient en effet à une critique, une mise à plat, une critique radicale de la démocratie représentative dans nos États telle qu'elle est mise en place aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle profite quand même, il faut bien le dire, à une élite économique notamment qui en effet ne sert pas les intérêts du peuple. Prenez l'Assemblée actuelle, l'Assemblée parlementaire française, c'est absolument frappant. Il n'y a plus qu'un seul ouvrier dans toute l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas encore il y a dans les années 80-90. Je crois que c'était un député communiste. Et quand Géraldine tout à l'heure parlait d'invisibilisation, au niveau de la représentation politique, c'est absolument inouï.
Est-ce que ça veut dire pour vous
qu'on ait accepté de laisser s'instaurer une situation pareille ?
Est-ce que ça veut dire que pour vous, Aude Lancelin, c'est vraiment le principe même de la représentation qui est remise en cause ? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt la nature, ou disons le profil des représentants qui pose problème aujourd'hui, et peut-être la nécessité à la fois de faire en sorte que ça change plus souvent, et peut-être aussi d'inventer de nouveaux endroits pour assurer cette représentation, cette médiation ?
Moi, je resterai sur le principe de Rousseau, à savoir, revenons au back to basis, à savoir dans des démocraties de très grande taille, on ne peut pas délibérer toute la journée comme on le fait dans la cabane de Commercy.
Donc, qu'est-ce qu'on fait, Aude ?
Et il y a, et je pense que beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui, beaucoup de gilets jaunes qui sont des gens absolument pas absolument raisonnables et pas des extrémistes qu'on essaie de nous présenter, ne souhaitent pas renverser entièrement le système représentatif. Ils demandent du respect, ils demandent une meilleure représentation de leurs intérêts, ils demandent une justice sociale, ils demandent des gens qui, au lieu de gouverner pour une élite, gouverne par le peuple et pour le peuple. C'est ça qui est important.
Vincent Trémollet de Villers, c'est le système, c'est le principe même de la représentation qui est en cause aujourd'hui ?
Non, je crois pas du tout. Et là, il y a même une crise de la représentation médiatique à laquelle on assiste pendant le mouvement des Gilets jaunes, où nous avons face à face un simulacre de peuple face à un simulacre d'élite, c'est-à-dire des Gilets jaunes appelant au soulèvement face à des députés marcheurs répétant des éléments de langage. Mais je crois pas qu'on puisse réduire et le peuple et l'élite à cela. Pour revenir au projet rousseauiste dont parlait Aude Lancelin, moi, c'est un projet qui me terrifie parce que il bénéficierait aujourd'hui d'un phénomène d'amplification que Jean-Jacques Rousseau ne pouvait pas connaître, qui est celui que permet le numérique. Et donc, si nous accédions aujourd'hui à une démocratie directe, on peut imaginer assez aisément ce à quoi elle ressemblerait. Je m'explique. Si on fait un peu de médiologie, si on vient à Régis Debray, on peut penser qu'on est passé du temps de l'écrit au temps de l'image, qu'on est passé du temps du logos au temps du pathos, de la raison au temps de l'émotion. Et que donc, la possibilité matérielle qu'offre le numérique d'avoir tout de suite, tout le temps, si nous ajoutons à ça la possibilité démocratique de la vie permanent, ça rend un pays absolument ingouvernable. Donc il me semble que cette dimension-là de notre société contemporaine exige d'autant plus des structures qui maintiennent la lenteur, la réflexion, le silence, le discernement, toutes choses qui sont indispensables à une vie démocratique, à une vie en société.
Mais est-ce que d'ailleurs le numérique et les réseaux sociaux, Vincent Trémollet de Villers, ne sont pas aussi une des causes de cette crise de la représentation ? Je voudrais juste citer un extrait d'interview de Pierre-Henri Tavoyau, qui est philosophe, qui a été interviewé il y a quelques jours de cela dans le Berry Républicain, qui sort bientôt un livre et qui sera la semaine prochaine à la Grande Table avec Olivia Gesbert sur France Culture, et qui dit notamment ceci. Les réseaux sociaux fragilisent l'espace public, cela complique considérablement l'exercice de la démocratie, car l'espace public en est un des piliers. Mmh. Un espace public fragilisé par des rumeurs et des manipulations constitue un grave danger pour la démocratie.
Oui, les réseaux sociaux, c'est pas un mal en soi, hein. C'est ambivalent comme tout progrès technique et comme tout progrès humain, mais ils doivent absolument être maîtrisé et être dominé.
On peut avoir l'illusion, qui est peut-être pas qu'une illusion d'ailleurs, d'avoir justement un rapport direct
Je vais vous prendre un exemple, le dénommé Fly Rider, qui a un nom de dessin animé, mais qui n'est pas un personnage de dessin animé, là, le gilet jaune, a remis en doute l'attentat de Strasbourg. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas vérifié par lui-même. Et donc on arrive à l'inversion de l'adage socratique. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est sur ça qu'est fondée la vie de l'esprit et la vie de la raison. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il peut tout savoir, parce qu'avec son outil que nous avons tous dans la poche, il a accès, pense-t-il, à toutes les vérités qu'on voudrait lui cacher. Et il me semble qu'il y a là un très très grand péril.
Une démocratie directe d'autant plus dangereuse qu'elle se passe au temps du numérique, Aude Lancelin.
Non mais écoutez, très franchement, je pense que vous n'êtes pas sérieux. Si pour vous l'Assemblée nationale actuelle est l'image de la délibération, de la réflexion, de l'élaboration législative... Écoutez, on est au contraire dans la rupture totale avec cette culture législative qui était très forte en France et très respectable et qui nous protégeait, nous tous les citoyens. Et on a une espèce de la barbarie numérique dont vous parlez, elle est plutôt chez ces gens-là, chez cette start-up nation qui a envahi l'Assemblée. Au contraire que le peuple, parfois en se trompant, parfois en trébuchant, s'informe, cherche à comprendre, cherche à se faire une instruction politique sans y être aidé par les grands médias, dont je rappelle qu'ils sont, on ne peut pas ne pas en tenir compte, possédés à plus de 80% par des entreprises du CAC 40, ce qui est, je pense en soi, un scandale que quelles que soient nos opinions politiques de droite, de gauche, nous ne devrions pas accepter une situation pareille. Et que le peuple cherche à se réemparer de questions politiques fondamentales, moi je trouve ça réjouissant.
Je réponds juste sur la barbarie numérique. Je ne distingue pas le peuple et l'élite, l'Assemblée et les Gilets jaunes. Je dis simplement que cet élément nouveau implique que les représentants soient exemplaires. J'ai pas dit qu'ils l'étaient, mais qu'ils doivent le devenir. Et l'idée qu'ils peuvent être remplacés par des gens qui n'ont pas, qui pensent qu'avec un simple outil numérique, ils sont aussi informés qu'eux, me semble une idée dangereuse. C'est tout ce que je voulais préciser.
Est-ce que ce danger-là, vous le voyez vous aussi, Géraldine Mühlmann?
Bon, je pense qu'on ne va pas avoir un débat juste sur le numérique parce que ça réduit votre question, Hervé Gardette. Je pense que...
En même temps, on baigne ouais, dedans et ça a quand même des incidences extrêmement importantes sur la vie politique.
Oui, ça a des conséquences sur les écrivains, ça a des conséquences sur les enfants, ça a des conséquences sur notre rapport au texte, ça a des conséquences sur notre rapport au temps.
Mais
ça
sur
a des
notre rapport aux autres
tellement
aussi.
Tellement énorme que je suis désolée, mais on ne va pas faire Madame Soleil. Nous sommes certainement en train de changer de manière de fonctionner, pas seulement politiquement. Pas seulement politiquement. Donc moi, c'est une énorme émission qu'on peut faire là, mais ça va nous éloigner du problème de la représentation, de la critique très belle et très radicale de Jean-Jacques Rousseau. Et moi, je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus, si ça vous dérange pas, parce que sinon, on va parler de tout, quoi.
Ça ne me dérange pas, même si je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ça n'aurait pas vraiment de rapport
non, mais j'ai pas
avec le sujet de ce soir.
Tout a un rapport, si vous voulez. C'est ça le problème.
Allez-y, Géraldine.
Je crois que... Il n'y a pas de démocratie sans méfiance à l'égard de la représentation. Et c'est comme ça que moi je lis la critique de Rousseau. Ce n'est pas comme un traité de droit constitutionnel qui nous dirait comment construire une démocratie dans un... C'est un mot d'ailleurs qu'il n'aimait pas, en fait. Hein, dans un grand pays, puisque par définition, il ne sait pas lui-même comment faire. Et quand il a été confronté au cas de la Pologne... Il a dit, il faut quand même qu'on mette des représentants, mais on va leur mettre des mandats impératifs. Il était confronté à l'exigence concrète de mettre la représentation. Donc moi, ce que je crois, c'est que nous devons nous inspirer des expériences qui ont été les plus critiques à l'égard de la représentation, mais qui ont fait avec, en essayant de neutraliser ces vices. Et de ce point de vue-là, on dit toujours que Athènes de Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ était une démocratie directe. C'est faux. C'était une démocratie représentative, mais avec d'extraordinaires contrepoids. Il y avait des représentants exécutifs, il y avait des représentants législatifs, il y avait une assemblée, il y avait des représentants judiciaires, il y avait des juges. Mais quels étaient les contrepoids? D'abord, le tirage au sort et non pas l'élection, qui quand même, oxygène. Hein. Deuxièmement, une rotation très rapide de ces gouvernants, des mandats très courts. Troisièmement, une exposition publique très grande. Quand même, c'était l'Assemblée qui préparait les lois, mais il fallait les faire voter par les citoyens avec un quorum de 6000 citoyens sur cette colline qu'on appelle la Pnyx. Etc., etc. C'était par ailleurs une démocratie extrêmement tumultueuse et conflictuelle. Pas du tout un jardin d'Éden. Il faut regarder les travaux de Nicole Leroux sur le conflit. Enfin, vraiment, c'était très déchiré. Et d'ailleurs, c'est mort aussi, historiquement, à un moment donné. Mais je crois qu'il faut réfléchir, d'une part, à mettre nos représentants sous tension davantage. Et que ce soit la presse, ça c'est pas des contrats de l'élection, mais pour ce qui est de nos représentants gouvernants et représentants législatifs, il faut les mettre sous tension, il faut inventer un système comme ça. Il faut, je crois aussi, créer de la participation pour compenser la représentation. C'est un débat que nous avons déjà eu ici. Bien évidemment, ça se pose pour la fonction législative, mais je répète, parce que j'ai dit que vous avez un jour beaucoup troublé, ça se pose aussi pour la fonction exécutive. Je crois que nous devons réfléchir dans nos vies à avoir des moments collectifs où nous travaillons pour la collectivité, pas tout le temps, mais voilà. Donc je pense qu'il y a plein de choses à inventer qui doivent oxygéner cette démocratie. C'est très compliqué, c'est assez utopique, mais c'est nécessaire.
Je ne me souvenais pas que ça m'avait beaucoup troublé, mais enfin, en tout cas, je veux bien l'admettre. Vincent Trémollet de Villers, Aude Lancelin. Alors, restons justement sur ces pistes évoquées par Géraldine Mühlmann. La question du tirage au sort, la question de la réduction des mandats, c'est-à-dire l'idée d'avoir davantage de turnover justement dans la représentation, est-ce que ça peut être une piste qui permet de concilier quand même la nécessaire représentation constitutive peut-être de la démocratie avec justement l'idée d'essayer d'en gommer peut-être les pires dérives.
Je pense qu'il faut tout explorer là pour le coup, parce que la crise est tellement patente qu'on peut pas y répondre simplement en faisant des débats sans qu'il y ait des conclusions à la fin. Donc il faut explorer le mode de scrutin. Est-ce qu'il faut plus de proportionnel ou pas? Est-ce que pour que la représentation soit plus juste, c'est à étudier. Est-ce qu'il faut dissocier l'élection des députés de l'élection du président de la République pour pas qu'il y ait des députés qui soient élus sans qu'on sache même leur nom, mais parce qu'ils sont dans la vague? C'est une question à laquelle on peut réfléchir. Est-ce qu'il faut dépersonnaliser la figure du président en faisant ce que font les Américains? Alors, je vous dis pas qu'il la dépersonnalise, mais ils ont une idée astucieuse, c'est que le président de la République ne commence son mandat que 2 mois après son élection. Comme ça, il a 2 mois pour essayer d'évacuer le fait qu'il est le meilleur et qu'il a gagné seul contre tous, ce qui en général, comme François Bazin l'a montré merveilleusement dans ses livres, fait des débuts de mandat qui sont jamais réussis.
Voilà, ça marche pas à tous les coups. Hein,
oui, ça marche pas à tous les coups, mais ça, rien ne marche à tous les coups. Hein. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait explorer. Je pense que la question du cumul des mandats doit être quand même réfléchie, parce que il me semble que beaucoup de ceux qui sont dans la majorité ou dans l'exécutif avaient eu des mandats locaux, ils auraient vu venir cette crise que beaucoup de gens ont vu venir quand ils avaient des capteurs et eux ne l'ont pas vu. Donc voilà, il y a à mon avis ça dans le grand débat qui se présente là, il faut absolument que ces questions soient posées et qu'il y ait des réponses concrètes et précises, parce que on pourra pas repartir comme on était avant le mois de novembre, ça c'est une évidence.
Bon, il y a énormément d'outils qui sont disponibles dans le cadre de la représentation, sans qu'on ait forcément nécessairement besoin de remettre en cause justement le principe même. Peut-être faudrait-il commencer par les essayer ou les réessayer pour voir ce qui peut fonctionner.
Alors oui, enfin à ceci près que avant même le démarrage de ce mouvement des Gilets jaunes, on sait que la Ve République commençait à être remise en cause très sérieusement dans sa personnalisation, dans la fonction présidentielle désuète qu'elle comprend et dont on voit les conséquences aujourd'hui. Hein, dont on voit les conséquences aujourd'hui, parce que quand le pouvoir est à ce point concentré entre les mains d'un homme, les crises de cette violence sont très difficiles à résoudre.
Pardonnez-moi cette petite parenthèse, mais est-ce que cette concentration entre les mains d'un homme, ce que vous dites, Audelancelin, elle ne résulte pas aussi de cette demande de suppression des intermédiaires? C'est-à-dire, finalement, est-ce que ça n'est pas aussi ça le risque, finalement? C'est-à-dire, quand on critique la représentation, l'excès de critique peut pousser justement à ce qu'on veuille avoir forcément un lien direct avec celui dont on considère qu'il a l'autorité suprême dans le champ politique. France, c'est le président de la République.
On le sait depuis Platon, hein, quand la dégénérescence de la démocratie arrive à son terme, on a la tyrannie. Donc on a le pouvoir entre les mains d'un seul.
Peut-être faut-il avoir conscience justement de cela avant que de remettre en cause l'ensemble des mécanismes de la représentation.
Je serais d'accord avec monsieur sur ce point, monsieur du Figaro.
Vincent Fabelet-Villard. Vous avez oublié son nom.
Je pense qu'il ne faut pas imaginer une seconde qu'on va reprendre le cours de nos vies, comme le disait également Emmanuel Macron le 10 décembre. Ce qui se passe en ce moment est une lame de fond. Ça ne veut pas dire que le gouvernement sera renversé. Ça ne veut pas dire que demain, le mois prochain, il va se passer quelque chose. Mais on est sur une lame de fond de plusieurs mois, de plusieurs années, réellement. La France est en train de réinventer la politique, de repenser la politique. On ne sortira pas uniquement par la répression. Ça n'est pas vrai, ça. Personne ne peut croire ça. Et il est absolument indispensable. Oui, il est indispensable de réinjecter de la démocratie dans notre système. Le fameux référendum d'initiative citoyenne appelé de leur vœu par les Gilets jaunes. Est-ce que ce que Monique Pinson-Charlot, par exemple, appelle une mesurette révolutionnaire, c'est-à-dire quelque chose qui, en apparence, ne coûte pas tant que ça, mais peut avoir des conséquences en termes de démocratisation de notre système très, très, très positives? Je rappelle, parce que le mot fait peur maintenant, le RIC, le mot fait peur à tout un système qui se défend face aux Gilets jaunes. Mais je rappelle qu'il était dans le programme présidentiel de 6 candidats à la dernière élection, que maintenant c'est devenu une espèce de référendum satanique depuis que les Gilets jaunes s'en sont emparés, mais qu'il s'agit, et c'est la moindre des choses, de faire en sorte que, oui, le peuple puisse demander à ce que certaines questions soient soumises à la délibération nationale collective, ce qui est la moindre des choses.
Je pense que s'il inquiète, pardon, S'il inquiète autant, c'est qu'il apparaît pas comme il avait été présenté pendant la campagne, mais comme un référendum révocatoire. C'est pour ça. C'est-à-dire que le RIC tel qu'il est porté par un certain nombre de ceux qu'il promeuvent chez les Gilets jaunes a pour objet et pour même pour objectif de pouvoir révoquer ceux qui gouvernent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les paisibles référendums à la Suisse.
Géraldine Mellemann.
Bon, moi, je suis pas sûre qu'il fasse tellement de mal, ce RIC. La question est de savoir ce qu'on va mettre dedans, dans le texte. Et puis, le problème, on le connaît, c'est que pour l'installer, il faudrait une réforme constitutionnelle, c'est pas sûr. Mais si on s'en... Enfin, est-ce qu'on va procéder par référendum, que ce soit pour réviser la Constitution ou pour installer un nouveau dispositif légal.
Bah ça peut venir après, de manière déjà, si on en accepte le principe, on réfléchit à comment on le met en œuvre.
Forcément, il va être rédigé. Et il va être rédigé pour être conforme à notre état de droit. Donc, de deux choses l'une. Ou les gens qu'il propose vont se sentir totalement trahis et vont être les premiers à voter non. Ou bien ils vont le trouver acceptable, mais ils risquent malgré tout de le trouver assez peu radical quelques années après. Moi, ma conviction, c'est qu'il va peut-être passer, mais sur un mode qui sera pas la révolution. Qui ne sera pas la révolution. Parce que la révolution, ça se fait pas avec le RIC. Qu'il faut quand même comprendre. Si vous voulez que la révolution, c'est une belle chose. Parfois, la révolution, c'est une chose terrifiante aussi. Mais en tout cas, ça se fait pas avec le RIC. Et c'est pas le RIC, la révolution. Il faut pas mélanger les sujets. Donc, le RIC, pourquoi pas? Mais je crois pas qu'il faille tout mélanger.
Alors, il ne faut pas mettre le numérique, il ne faut pas mettre le
non,
RIC.
Non, pas
ce
du
soir,
tout.
Excusez-moi,
je ne voulais pas que ce soit perçu comme ça.
Je plaisante.
Non, mais si vous voulez, on parle du numérique.
Non, je ne veux pas revenir au numérique. Non, ce n'est pas du tout.
Je ne sais pas bien l'idée. Quoi vous dire. Non, quoi.
Si vous voulez bien, d'ailleurs, comme il nous reste quelques minutes. Non, je voudrais qu'on termine peut-être la discussion, parce que alors, c'est vrai qu'on a englobé énormément de sujets ce soir. Alors, c'est un peu une synthèse de nos précédentes émissions. Je voudrais quand même qu'on termine. Qu'on revienne aussi à la question des médias, cette défiance à l'égard des médias, qui rejoint aussi une défiance à l'égard du politique, qui peut aussi entraîner des demandes d'une meilleure participation, justement, par exemple, du public des médias. Comment est-ce que ça peut se mettre en place, Géraldine Mellemann? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ouvrir davantage les médias dans lesquels on travaille, écouter davantage en amont ce que veulent nos lecteurs, ce que veulent nos auditeurs, nos téléspectateurs?
Je vais vous répondre, je vais essayer d'être brève. Ce que je crois, depuis longtemps, depuis que je travaille sur ces questions de journalisme, que l'enjeu n'est pas d'abord, contrairement à ce que l'on croit souvent, le discours, le point de vue, l'opinion, le discursif, c'est-à-dire faire venir des gens qui pensent... c'est une partie du journaliste d'entendre des opinions, et là, il faut effectivement une pluralité. Bon. Mais il y a toute une partie du journalisme qui est le fondement du journalisme moderne depuis le 19e siècle, qui est le récit, qui est le reportage, raconter des histoires de notre monde contemporain, etc. Et je pense que si déjà cette fonction-là était honorée, véritablement, ne laissons pas, par exemple, dans l'invisibilité des pans entiers de notre société, trop, pas partout, hein, mais je crois que la fonction narrative plus que discursive des médias est très importante. Elle est très importante en plus parce que, comme on le sait, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir du doc, ils veulent voir du magazine avec des sujets, des reportages. C'est encore quelque chose qui marche. Et je crois qu'ils ont aussi pas seulement envie de s'exprimer, c'est une demande qui existe, mais ils ont aussi envie d'être vus, d'être racontés. Et je voudrais insister sur cette fonction-là du journalisme, qui n'a pas besoin de mettre des gens en plateau partout, qui a besoin d'ouvrir ses yeux.
Être vu, être raconté, peut-être aussi participer, au-delà de cela.
Moi, je crois pas que ce soit le problème qui soit posé par les gens. Je pense pas qu'ils aient envie d'être plus représentés sur les plateaux. Je pense vraiment qu'ils ont envie de pouvoir retrouver confiance en ceux qui leur parlent. Et pour retrouver confiance en ceux qui leur parlent, il faut que ceux qui leur parlent ne soient pas soumis à d'autres intérêts que les leurs. Voilà. Et je pense que pour vraiment... alors, il s'agit de réformes très radicales. Hein, enfin, radicales, c'est-à-dire que... Au sens où vraiment il faudra un gouvernement déterminé et une législation forte, mais un assainissement de la situation dans les médias, une restauration de la confiance ne pourra se faire qu'avec des lois anti-concentration, qu'en refusant, par exemple, à un Bernard Arnault de posséder à la fois Les Échos, le plus grand journal économique, et en même temps le Parisien, le journal populaire de la petite couronne parisienne.
Oui, mais regardez, la défiance, elle s'exerce aussi à l'égard du service public. Hein. France Culture, on n'en est pas totalement.
Parce que les mêmes personnes, aussi, parce que les ils circulent.
C'est pas Bernard Arnault, notre maison à l'autre.
C'est pas Bernard Arnault, mais votre actionnaire,
c'est ceux qui nous payent, c'est-à-dire l'État. Oui,
et celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui est un ami de Bernard Arnault, vous voyez donc.
Sont les contribuables.
Tout ça, on est dans le même monde. On est dans le même monde. On est avec des journalistes qui circulent du privé au public. Les mêmes figures, avec le même discours. C'est ça le problème.
Vincent Trémolet-Villers.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette forme de rationalisation que vous êtes en train de faire. Moi, il me semble que dans cette histoire de médiatique, tout le monde a à réfléchir et à son rapport aux médias. Et notamment, je ne vais pas reparler de numérique, mais on va parler un peu d'information continue, qui, par ceux qui la font, mais par ceux aussi qui la regardent et qui vivent avec... à mon avis, participe de la dislocation aussi du lien social. C'est-à-dire que si jamais, rêvons un peu, les gens écoutaient France Culture, lisaient des quotidiens, lisaient des hebdos, lisaient des livres, lisaient des revues, il y aurait des capacités de discernement et il y aurait des fécondités que l'on n'imagine pas. Là, la société médiatique a installé un système dans lequel la vie se voit à travers l'écran. Elle ne se voit pas à travers la réalité. Elle se voit à travers l'écran de la chaîne de télévision et à travers l'écran de son téléphone. C'est ça. Et d'ailleurs, on a vu des gens sur des ronds-points dire « Enfin, on a retrouvé un dialogue. On s'est mis à discuter, on a éteint la télé, on a... Bon. » Donc, il me semble quand même que là, on est en train de faire la critique des médias. On est quand même dans un pays où il y a une diversité médiatique énorme, où on peut dire à peu près tout ce qu'on veut partout où on le veut. Donc, on n'est pas... La liberté de la presse n'est en rien menacée et sa diversité non plus. En revanche... Je pense que, pour employer un mot moche, il y a une consommation médiatique qui est beaucoup trop importante et qui exige que ceux qui la produisent s'interrogent et ceux qui la consomment s'interrogent aussi.
Est-ce que vous pensez que pour s'informer aujourd'hui, on a nécessairement besoin de ces intermédiaires que sont les médias, Vincent Trémolet-Villers ?
Évidemment, mais comme disait Géraldine Mühlmann, avec des gens qui font du journalisme, c'est-à-dire qui font des enquêtes, qui font des récits, qui font des portraits, avec la part de subjectivité qui existe toujours parce que c'est une personne humaine qui fait la chose. Ça me paraît indispensable. En revanche, qu'un pays entier se contemple dans un écran où défilent des images dans lequel il aimerait être, ça me paraît être une des parts du malaise des sociétés occidentales aujourd'hui.
Les médias participatifs qui impliquent davantage justement leur lecteurs dans la production de l'information. Tout à l'heure, je crois que vous m'avez mal compris, c'est-à-dire c'est pas uniquement de les inviter sur des plateaux pour les faire parler, mais c'est aussi de participer en amont à la production d'une information. Est-ce que c'est pas aussi une piste qui peut être étudiée? Ça existe, alors ça existe de manière assez microscopique, on va dire, pour l'instant, notamment dans les pays, certains pays anglo-saxons. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraîtrait intéressant, de Lancelin?
Non, mais...
Et ce sera la conclusion.
Très certainement. De toute façon, c'est forcément une bonne chose. C'est pas nouveau. Hein. Quand Mediapart s'est lancé, il y a une dizaine d'années, le club se voulait extrêmement participatif et voulait solliciter les lecteurs. Et depuis, toutes sortes de médias ont repris cette idée. Mais encore une fois, je persiste, ce n'est pas le fond du problème. Les gens, ce n'est pas le surplomb des journalistes qui les dérange vraiment sur le fond. C'est que vraiment, ils ont l'impression d'être matraqués par les porte-paroles d'intérêts qui sont contraires aux leurs. Et la crise de confiance, elle est là.
Bon, bah écoutez, on aura l'occasion évidemment d'en rediscuter une prochaine fois. C'est aussi le principe de ce club des idées qu'on vous propose chaque vendredi. Ce sera aussi le cas la semaine prochaine et un nouveau membre intégrera l'équipe. Suspense, attendez encore une semaine. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Vincent
Trémolet-Villers,
donc je rappelle, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Géraldine Mühlmann et Aude Lancelin. On se retrouve je ne sais pas quand, mais en tout cas ce sera bientôt. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Leduo, Antoine Tricot et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Pierrick Charles, Nicolas Despagraf et Philippe Thibault. Arnaud Laporte, dans 3 minutes, ce sera la dispute.
Ouais, vous avez l'air un peu fatigué, Hervé Gardette.
La semaine a été chargée, je ne
vous le cache pas. Mais demain midi, vous serez là ou pas ?
Demain midi, je serai là pour Politique. On va parler de la route, la politique de la route, avec l'historien Mathieu Flonneau.
On sera à l'écoute. On vous souhaite évidemment plus d'énergie, mon cher Hervé. On va parler
de cinéma
dans 3 minutes.
C'est ma fête ce soir.
Dans la dispute. Ben, voilà, on s'y met chacun à notre tour. Mais on retrouve tout de suite Mathieu Laurent pour les titres de l'actualité. Il est 19h.